Après 25 ans passés à scrupuleusement dire ce que je voyais, ne pas trahir la réalité et essayer de raconter la vérité la plus pure, au moins de ce que je voyais, de ce que je comprenais, peut-être que l'envie m'a pris de prendre mes distances et de m'amuser un peu et de raconter mes propres histoires. Après tout, pourquoi pas? Et je m'amuse comme un fou, honnêtement, je m'amuse comme un fou à les inventer, mes histoires.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Nous sommes convaincus ici du pouvoir consolateur de la littérature en cette période de crise et de restriction de nos libertés. Alors cette semaine, nous prenons le large sur un fameux trois-mâts, celui d'un marin et pirate breton, Yann Kervadec. Journaliste ou ancien journaliste et auteur, Jean-Marie Kemener signe avec Le Vent des Soupirs aux éditions Plomb le troisième volet des aventures du Carnacois embrigadé dans la piraterie au XVIIIe siècle. C'est en tout cas un grand bol d'air salutaire dans nos vies sous couvre-feu. Bonjour Jean-Marie Kemener.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté d'être en ligne avec nous quelques minutes. Alors vous étiez journaliste, je le disais, grand reporter, vous avez sillonné le monde comme correspondant à l'étranger pour de nombreux médias, puis vous avez été successivement rédacteur en chef pour iTélé, Canal+, LCI. À ce moment-là, vous avez écrit des ouvrages en rapport avec l'actualité et ses acteurs, je pense à une biographie de Bachar el-Assad par exemple. Pour quelles raisons, vers 2017, vous vous tournez vers le roman et la piraterie avec ce personnage haut en couleur de Yann Kervadec?
En fait, je suis tombé, la raison objective, c'est que je suis tombé complètement par hasard sur une étude passionnante sur la République des pirates, c'est comme ça que ça s'appelait réellement, hein, à Nassau, aux Bahamas, au début du 18e. Des pirates prennent le contrôle d'une île, mais une île où il n'y a pas de pirates en fait, une île où il y a des artisans, des ouvriers, des commerçants, des planteurs, et ils vont se mettre à gérer cette île comme on gère un bateau pirate, de façon relativement démocratique, en y mettant des gros guillemets quand même. Et donc ça m'a passionné cette histoire, je me suis dit c'est incroyable quand même, la première démocratie occidentale du monde, c'est pas les États-Unis d'Amérique, en fait c'est un toute petite île et ce sont des pirates. Et plus je travaillais, plus en fait ça devenait une évidence. Et un jour, je me suis planté devant mon éditeur, et j'ai dit, écoute, assieds-toi, j'ai une histoire à te raconter, et j'ai inventé une histoire, en priant pour que je m'en souvienne, parce que s'il me disait oui, j'avais quand même un bouquin à écrire, et, mais je l'ai inventé au fur et à mesure, et il m'a dit, bah banco, mais c'est pas un, c'est trois que tu vas en faire, donc youpi, youpla, cet éditeur, c'est Grégory Hébertier, il mérite qu'on cite son nom, parce qu'il a pris un sacré risque, avec un zigoto dans mon genre, mais ça fonctionne.
Et le troisième vient de sortir et c'est génial, ouais. On va en parler juste avant. Comment vous basculez de quelqu'un ancré dans l'actualité, par votre métier et puis par vos ouvrages, à l'aspect romanesque? Parce que même si, et on va le voir, hein, c'est quand même très... Il y a une étude des caractères, une étude des paysages, des situations, etc., qui rappelle un peu le journaliste que vous avez été. Néanmoins, c'est du roman. Comment vous basculez?
En fait... J'ai un peu envie de vous dire, la méthode est la même. Sur chaque livre, il y a 2 ans de recherche, des recherches historiques. Hein. Alors l'avantage de la recherche historique, c'est que contrairement à la Syrie, à l'Irak, l'Afghanistan et d'autres terrains de jeu, les gens sont morts depuis 2 siècles, ils ne viennent pas vous enquiquiner quand vous enquêtez sur eux. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc déjà, on ne vous tire pas dessus, c'est pas mal non plus. Mais c'est quand même 2 ans de boulot, donc c'est comme quand un journaliste part en reportage, on imagine qu'il part en reportage... les mains dans les poches et qu'ensuite ils se débrouillent. Non, en fait, il y a énormément de travail à faire avant et on travaille sur des dossiers, beaucoup, beaucoup, et une fois qu'on est sur place, on a une base suffisante pour comprendre ce qui se passe sur place. Bah, j'ai fait exactement la même chose. Alors évidemment, l'écriture est différente, évidemment j'invente, évidemment je tords la réalité, et peut-être, je sais pas, faut pas être psy de comptoir, mais enfin, après 25 ans passés à scrupuleusement dire ce que je voyais, ne pas trahir la réalité et essayer de raconter la vérité la plus pure, au moins de ce que je voyais, de ce que je comprenais, peut-être que l'envie m'a pris de prendre mes distances et de m'amuser un peu et de raconter mes propres histoires, après tout, pourquoi pas, et je m'amuse comme un fou, honnêtement, je m'amuse comme un fou à les inventer, mes histoires.
Quelle est la part historique de vos romans et de cette série Jean-Marie Kemener, parce que on a l'impression, en tout cas, qu'il y a un vrai socle historique. Alors après, l'histoire est romancée, mais j'ai l'impression que si j'allais fouiner dans des bouquins d'histoire, je retrouverais quand même une vraie vérité historique au XVIIIe.
Vous y retrouveriez une vraie vérité historique. Je travaille beaucoup là-dessus. Je ne suis pas historien, j'ai pas cette chance, donc ça me demande beaucoup de travail. Je n'invente rien. Pour la petite histoire, typiquement le Vent des Soupirs, donc le 3 qui est sorti là, à un moment j'évoque, ben, ça prend deux lignes, mais il faut voir que ça m'a pris du temps à comprendre ce qui s'était passé en fait. Mais j'évoque comme ça rapidement la révolution de la cachaça. Alors la cachaça, c'est un alcool bien connu, brésilien. Les Brésiliens l'ont inventé bien avant, il y a très longtemps, et au XVIIe siècle, le Portugal a voulu taxer les producteurs de cachaça. Et ça a failli leur coûter le Brésil aux Portugais, parce que les producteurs de cachaça ont lancé une révolution. Ça a été une vraie révolution, hein, la révolution de la cachaça. Et ça a failli faire perdre le Brésil aux Portugais. Voilà. Typiquement, ce genre d'histoire, moi, ça me prend un temps fou à les retrouver, à les chercher, à les creuser. Et à l'arrivée, ça fait deux lignes dans un livre. Mais j'y tiens. J'ai l'habitude de dire que, en fait, j'essaye, dans la mesure du possible. Si vous imaginez un tableau, le cadre serait du Louis XV, on est au début du XVIIIe siècle, mais le tableau à l'intérieur serait du Banksy. Évidemment, je n'ai pas le talent de Banksy, mais c'est ça un peu, c'est ça un peu l'image.
C'est drôle que vous parliez de ces deux lignes, parce que ça m'a frappé hier soir quand j'ai refermé ce livre, et dans le même temps, j'ai vu quelque part que vous mettiez, je crois, 2 ans pour écrire chaque aventure de Yann Kervadec. Et je me suis dit, Jean-Marie Kemener a mis 2 ans à l'écrire, j'ai mis 2 soirs à le lire, parce que ça se lit alors très facilement, hein, on est embarqué dans ce vrai roman d'aventure, et j'ai trouvé que la différence était énorme, et je me dis, quel travail pour effectivement, que le lecteur, que la lecture soit fluide.
Et c'est du travail. Mais il faut du travail. Vous êtes journaliste, vous le savez. Vous utilisez quoi? Allez, dans le meilleur des cas, vous utilisez 5 à 10% de l'information récoltée. Je ne sais pas, il se passe un truc à Saint-Lô, vous travaillez dessus, vous allez apprendre plein de trucs. À l'arrivée, on va dire, bah écoute, tu nous fais un papier d'une minute 10, une minute 30 au mieux. Vous allez devoir laisser de côté un nombre d'informations récoltées énorme. C'est le même principe quand on écrit un livre, en fait. On récolte énormément d'informations et finalement, on en divulgue, entre guillemets, que très peu. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est... Ce qu'on sent, c'est le travail, mais on ne doit pas le voir. Et j'espère que c'est le cas.
C'est, comme un bon musicien, quoi. Il faut faire beaucoup de gamme pour que le travail soit invisible à l'arrivée.
C'est parfait. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Alors, il y a une chose qui est assez typique, hein, du roman d'aventure, mais alors là, qui marche extrêmement bien dans Le Vent des Soupirs aux éditions Plomb, c'est que, comme lecteur, on imagine les scènes que vous décrivez avec beaucoup de précision. Et j'ai envie de dire que c'est sans doute ce processus qui fait que le lecteur se transforme en une sorte de voyageur immobile. Est-ce que c'est un élément qui compte, ça, pour vous, au moment de l'écriture du Vent des Soupirs? C'est-à-dire aussi, je ne sais pas comment dire, travailler à l'imaginaire du lecteur?
Non, en fait, non. Je travaille essentiellement... Je travaille le fond, donc énormément. Et la forme, elle m'est naturelle. Évidemment, je travaille sur la forme, je regarde ce qu'écrivent les autres, évidemment, je relis mes classiques, bien sûr, j'essaie que ce soit fluide, bien entendu, mais je me pose pas trop de questions. L'histoire, elle est venue à maturité, c'est un fruit mûr qu'on cueille tout seul, quoi, et c'est fluide. Enfin, j'aimerais bien me faire passer pour un artiste maudit. Vous savez, je vais me couper l'oreille parce que je suis dépressif et je me tuerai après. Non, rien à voir. D'abord, j'écris pas quand je suis pas bien. Ensuite, c'est une vraie jouissance personnelle d'écrire un bouquin. C'est un plaisir fou. Et enfin, quelque chose de très important, parce que les gens le savent pas vraiment, mais enfin, en tout cas, c'est vrai pour moi. Je parle pas au nom des autres, mais moi, mes personnages m'échappent. Ils vivent leur vie et parfois, il m'emmène dans des endroits ou dans des situations que je n'avais pas vraiment imaginées. C'est au fil de l'eau quand j'écris. C'est logique qu'il fasse ça, qu'il se retrouve là, etc. Et donc, j'ai l'impression que de les accompagner plus que de les diriger. C'est, c'est plutôt ça. Et bah, si le résultat convient, c'est, je suis super content. Mais je les accompagne, en fait. Je les dirige pas, je leur dis pas quoi faire.
J'ai trouvé que ce livre était vraiment écrit et fait pour la période que l'on est en train de traverser, parce que si il y a quelqu'un qui n'est pas confiné et qui vit sans restriction, c'est bien Yann Kervedek. Donc il nous apporte un oxygène qui est salutaire en ce moment. Comment vous avez envie de dépeindre votre héros en quelques phrases? C'est qui ce Yann Kervedek? C'est quoi son caractère que vous décrivez si bien dans le livre?
Il est libre. Il est libre. C'est un luxe que, confinement ou pas, on a peu souvent. Parfois par petits intervalles, et c'est déjà magique. Mais il est libre. Il est d'une force incroyable. Il est d'une fragilité immense. Il a besoin des autres, et les autres ont besoin de lui. Et il a un cœur gros comme ça, avec un caractère bien trempé. J'ai envie de vous dire, c'est un homme de l'Ouest, quoi. Il est le nôtre, Ouest, hein, pas du Far West, hein, le nôtre. Il est dur et en même temps tendre. Il est plus bourré de paradoxes. C'est un homme, en fait. C'est un homme, mais un homme qui a choisi d'avoir un libre arbitre au XVIIIe siècle. C'est difficile, c'était très compliqué. Et finalement, la mer, qui était un espace de liberté, le seul qui restait, le seul qui nous reste encore à peu près, c'est son terrain de jeu. Et finalement, c'est bien normal, mais il n'est pas tout seul. C'est tout un équipage, c'est tout un univers qui va dont il fait partie. Tout ne tourne pas autour de lui, en fait. J'ai essayé d'être raisonnable et rationnel, hein, de créer un petit univers où mon héros serait le héros, bien entendu, mais où tout ne tournerait pas autour de lui, et il y a des choses qui lui échappent, et il a une qualité énorme, Yann, c'est quand il ne sait pas, il dit « je ne sais pas ». Et ça, si tout le monde pouvait s'en inspirer, ce serait pas mal.
Alors j'ai envie de lire quelques lignes à nos auditeurs pour leur dire de quelle manière vous m'avez pris la main dès la première page, qui est la page 11. C'est la manière dont vous travaillez sur les personnages. Je trouve qu'elle est remarquable. Et alors le Yann Kervedek, qui est le narrateur, écrit ou dit ceci: « Mes amis, les compléments de mon être, de ses tourments et de sa plénitude, Fingal, dit Fine, chirurgien, maître artificier, exploseur prolifique et shakespearien distingué, Irlandais tourbé, mon frère de sang versé. Armel, maraudeur de mon enfance, témoin de mes errances adolescentes, plus roux que le feu des feuillages d'automne, tailleur de pierre sans doute par nature, tant ses épaules semblaient s'arc-boutées en arche romaine, et Abiola, titan noir au cœur d'enfant, oncle de ma femme, ancienne esclave, heureux propriétaire à Providence d'un estaminet à l'alcool lourd et aux dames légères. » Alors, je trouve que ces quelques phrases du début, moi, c'est elles qui m'ont pris la main. Je me suis dit, s'il décrit les personnages comme ça, je vais me régaler. Et effectivement, jusqu'à la dernière page, que ce soit les personnages ou les situations, c'est décrit avec cette espèce de langage, j'ai envie de dire langage fleuri. En tout cas, un langage avec des tas de couleurs, des tas de métaphores, des tas de ça, j'imagine que c'est presque une empreinte pour vous, non, de votre écriture, ce style-là.
Oui, c'est... J'essaye autant que faire se peut. C'est très aride, la lecture, en fait. Vous lisez un livre, en fait, concrètement, physiquement, vous lisez des lignes noires sur du papier blanc, quoi, avec des mots. Et la puissance de la lecture, donc de l'écriture, c'est finalement d'arriver à glisser les cinq sens dans chaque passage. Mmh. Essayez au maximum que les gens puissent, si je vous parle, j'en sais rien, de vous savez, les pirates de l'époque tannaient eux-mêmes leur peau de chèvre, hein, c'était tanné à moitié, etc. Si là-dessus, vous sentez un peu les poils de chèvre mal enlevés, vous sentez cette odeur bizarre de tannerie pourrie, que le soleil et la sueur, bref, pas, et que vous emmenez les gens quelque part parce qu'ils vont sentir. Moi, je pense que je suis très heureux quand quelqu'un me dit j'ai senti ce que tu racontais. C'est le plus dur à l'écrit, c'est de raconter le toucher dans ses cinq sens. C'est très compliqué le toucher parce que le nez, je peux vous parler d'odeur, ça va immédiatement vous dire quelque chose. Alors, typiquement, le poisson pourri. Ouais,
et vous le faites bien quand vous parlez du vin là, que travaillent les deux bordelais, là, etc. Vous le faites très bien, le travail sur les odeurs.
Oui, c'est ça. Mais c'est important. Et si vous voulez embarquer les gens dans vos histoires, même des histoires vraies d'ailleurs, c'est important que leurs cinq sens s'y retrouvent parce que vous les prenez complètement. Mmh. Si vous prenez quelqu'un à moitié, il peut vous lâcher, il peut ne pas trouver ça intéressant, il peut ne pas en avoir pour son argent en quelque sorte et dire non mais oui, bon, d'accord, ok, je vois, mais je sens pas. Et en fait, le ressenti vient du fait que les cinq sens soient activés. Ce que j'essaye de faire, c'est gentil de dire que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaye de faire, oui.
J'ai pas trop envie de rentrer dans l'histoire parce qu'évidemment un roman c'est Il était une fois et il faut le lire absolument. J'espère en tout cas que nos auditeurs me feront confiance et iront lire cette épopée. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce Vent des soupirs, c'est aussi la manière dont vous faites vivre. J'ai trouvé une sorte de micro-société sur le bateau. C'est que finalement, par le caractère de vos personnages, certains viennent s'ajouter d'ailleurs au fil de l'aventure. On a devant nous une petite société, quoi. Et vous finalement, il y a aussi, par ce truchement-là, une sorte de regard sur la société, non ?
Oui. Alors d'abord, globalement, on parlait de la société pirate. Hein. C'est même leur mot à eux. Donc, comme quoi, ils étaient conscients d'avoir créé eux-mêmes leur propre société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en ce qui concerne mon héros, il s'entourait de gens qui sont atypiques pour son époque, mais qui lui conviennent parfaitement. Son meilleur ami est sodomite, on disait à l'époque, homosexuel, on dirait aujourd'hui. Et je vous prie de croire que c'est déjà pas facile aujourd'hui. Mais alors, à l'époque, c'était très, très compliqué, évidemment. Sa femme est métisse. Ces deux meilleurs amis sont, alors je ne les ai pas inventés, elles existaient vraiment, hein, les deux plus farouches pirates au féminin de cette fameuse République des pirates à Providence. Tout ça fait des interactions, crée des interactions qui doivent amener mon petit Yann Kervadec à grandir et à se poser des questions profonde, sans avoir l'air d'y toucher, juste à progresser lui-même et à grandir, en fait. Et comme c'est une bonne âme, il grandit avec ces gens qui, à son contact, grandissent aussi. Et en fait, c'est juste amusant de voir comment toutes ces interactions, encore une fois, m'échappent totalement. Elles sont logiques, elles me viennent tout seul parce que c'est les personnages qui ont le contrôle et donc leur interaction les font grandir. Voilà.
Pourquoi Yann Kervadec, il est pirate plutôt que corsaire alors qu'il travaille pour le roi quand même, non ?
Ouais, alors d'abord les
enfin,
corsaires.
Enfin, ils travaillent. Je sais pas si c'est un travail, mais.
Oui, mais les corsaires au début du 18e, il n'y en avait pas beaucoup. Voire pas du tout. C'était pas. C'est à la fin du 18e, 19e, qu'on voit vraiment les corsaires, typiquement Surcouf, arriver, et qu'on voit vraiment les grands corsaires arriver qui sont au service de la France, et voilà. C'est plutôt pirate au début du 18e, hein, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, les pirates, pour aller très rapidement, les pirates, la plupart du temps, c'est quoi? C'est un homme qui a été recruté tout petit, parfois de force, emmené sur un bateau militaire, la marine royale française ou la Royal Navy britannique notamment, hein, mais c'est vrai de l'Espagne, du Portugal, ce que vous pouvez imaginer, qui a été très très maltraité à bord, qu'on fait boire pour faire oublier les douleurs du quotidien, qu'on fouette quand il y a une erreur de fait, ou pas de fait d'ailleurs, mais qu'on fouette au bon vouloir. Bref, ce sont des hommes qui sont corvéables à merci. Ces gens se disent jetés en piraterie. C'est leur mot, hein, c'est le mot. Ils sont jetés en piraterie. Pourquoi ils sont jetés en piraterie? Parce qu'ils refusent l'autorité. Ils n'en peuvent plus. L'autorité, c'est de la violence pour eux. C'est des coups. Et donc, ces hommes-là vont essayer d'inventer un système de vie où finalement l'autorité est partagée et voulue par tous. C'est pour ça que sur un bateau pirate, alors faut oublier Pirates des Caraïbes et compagnie, hein, là on parle de vérité historique, sur un bateau pirate, le capitaine est élu. Il est par l'équipage. Il est toujours élu par l'équipage. Évidemment, quand c'est Barbe Noire, vous avez intérêt à les lire, hein, ça peut, c'est mieux. Mais enfin, il est élu par l'équipage. Et les histoires sont très, très, très nombreuses de capitaines destitué par l'équipage, c'est-à-dire auquel cas ça se passait pas très bien pour lui. Mais Yann Kervadec, à partir du moment où mon fil directeur, c'est la liberté, il pouvait pas être corsaire, il pouvait pas être tenu. Il y a un moment où il doit être pirate parce que il doit assumer la liberté et le libre arbitre qu'il veut. Alors, petite parenthèse encore historique rapidement, la durée de vie d'un pirate à l'époque, c'est 2 ans. Hein. Donc, si vous vouliez être pirate, vous saviez que vous alliez mourir.
Oui, et puis c'est vaut mieux pas être pris. Hein. C'était ça un peu le principe, c'est-à-dire qu'un
on est pris,
un pirate pris est pendu. Hein. Ouais.
Ah, on est pris, on est pendu. Puis en plus, avant d'être pendu, on passe par deux, trois étapes qui sont pas franchement très agréables. On torturait à l'époque. Hein. Mais on est pendu, Jacques Racan est pendu, Barbe Noire, on lui coupe la tête. Lors d'un assaut, voilà, ça finit toujours mal. Hein.
Et on sent cette urgence de vivre, d'ailleurs, dans votre roman. En tout cas, j'invite nos auditeurs absolument à lire ce Vent des Soupirs, les aventures de Yann Kervadec, marin breton. Celles et ceux qui veulent lire les premiers volets, d'ailleurs, hein, La République des Pirates ou L'écume des lames, c'est dispo en pocket, en livre de poche. Juste pour conclure, Jean-Marie Kemener, est-ce qu'on peut dire que c'est un hymne à la liberté aussi, ce nouveau roman, comme les deux autres, d'ailleurs? Les trois volets de cette aventure.
C'est un hymne à la liberté, j'espère surtout que c'est un hymne à l'humanité, en fait, à notre humanité, avec ce qu'elle a de bien et ce qu'elle a de mal. C'est un hymne à l'humanité, ce sont des hommes, tout ça, des femmes, et leur interaction fait que parfois ils font des choses bien, parfois ils font des choses moins bien, mais que tout ça les fait progresser. C'est la liberté et l'humanité. J'espère que c'est ça, honnêtement, c'est sans prétention. Hein. C'est juste, c'est ce que je veux faire. Derrière, j'espère que j'y arrive. Mais oui, c'est ça.
C'est le dernier volet de l'aventure ou il y en aura d'autres?
A priori, c'est le dernier volet de l'aventure. A priori, il va pouvoir se décliner dans d'autres supports. Mais je les aime, mes pirates, je ne ferme pas la porte.
Oui, ça fait beaucoup d'a priori, hein, je trouve. Ouais. On a des chances de revenir à Carnac.
Oui, évidemment, oui, c'est chez moi à Carnac, donc je les ai mis chez moi, évidemment. Mais non, à un moment, je pense qu'ils me manqueront trop et que j'y retournerai. Forcément, j'y retournerai.
Merci beaucoup, Jean-Marie Kemener. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour évoquer ce beau livre, Le Vent des Soupirs, aux éditions Plon. Au revoir.
Au revoir.
Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.